Comme vous, Bernard Werber, il est extrêmement sensible. Et hélas, sa sensibilité est mise à rude épreuve par la perfidie de sa collègue Ève Roger, qui ne manque pas une occasion de le rabasser. Si par exemple, quelqu'un marche par inadvertance sur la queue d'un chat...
On aurait dit Emmanuel Dutheil.
Non, Ève, je vais vous disqualifier. Écoutons plutôt, si vous le voulez bien, l'excellent sujet, pile dans l'actualité, hein, je le signale, de notre ami Emmanuel Dutheil.
Oui, je vous emmène en vacances. Alors, en tout cas, j'espère qu'on va trouver les moyens de pouvoir partir en vacances. Parce qu'aujourd'hui, avec la faillite de la compagnie Aigle Azur, la faillite d'XL Airways ou la faillite de Thomas Cook, on se demande bien comment on va réussir à partir en vacances. Alors, peut-être qu'on va regarder déjà le problème de Thomas Cook pour essayer de comprendre ce qui ne va pas aujourd'hui dans le monde du tourisme. Thomas Cook, c'est un nom qu'on connaît tous, hein, c'est le pionnier du tourisme, c'est même l'inventeur, on peut presque dire, du voyage de masse. C'est un gros tour opérateur britannique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu un énorme problème de stratégie, ça a été mal géré. Mais il y a eu surtout le Brexit, et les touristes britanniques aujourd'hui sont inquiets de partir en vacances, donc ils partent un petit peu moins. Et puis surtout, il y a un petit truc qui s'appelle Internet, qui a totalement révolutionné la façon de voyager. Tout ce qu'on en est, beaucoup à la maison, doivent aujourd'hui réserver eux-mêmes et sont devenus un peu leur propre tour opérateur. Et donc aujourd'hui, on se passe de plus en plus d'agences de voyage.
Mais ça, c'est vrai pour tous les tour opérateurs, et pourtant, ils font pas tous faillite.
Alors, c'est certain, mais ils sont quand même tous obligés de se réinventer. C'est vrai pour les compagnies aériennes, et c'est vrai également pour les tours opérateurs. Quand vous regardez les compagnies aériennes, qu'est-ce qui pose aujourd'hui problème? C'est qu'on ne paye pas assez cher notre billet d'avion. Il y a 10 ans, prendre l'avion, mais même pour aller en Tunisie, ça coûtait cher. Aujourd'hui, ça coûte moins cher d'aller en Tunisie que d'aller à Vierzon en train. Donc ça, c'est un vrai problème, puisque les compagnies sont obligées de s'adapter extrêmement rapidement au fait que l'on paye de moins en moins cher. Donc les compagnies les moins solides, c'est vrai pour beaucoup de low-cost qui croyaient que c'était mirifique de vendre des billets pas chers et qu'on allait gagner de l'argent, tombe parce que ça ne marche pas. C'est vrai aussi pour XL Airways et c'est vrai pour Aigle Azur. Mais c'est vrai aussi pour les tours opérateurs. C'est-à-dire que quand vous prenez l'habitude d'aller en Tunisie à 300 ou 400 euros la semaine, il ne reste pas beaucoup de marge pour le tour opérateur. Donc aujourd'hui, il va falloir se réinventer. Qu'est-ce qui va fonctionner? Il va fonctionner le fait qu'on va se débrouiller tout seul, comme des grands, on va devenir nos propres tours opérateurs pour les destinations très faciles. C'est-à-dire effectivement la Tunisie, le Maroc, on est à peu près capable de se débrouiller tout seul, de payer en ligne, etc. etc.
Ah, et en revanche, si on veut aller au Bhoutan, par exemple, pour des destinations spécialisées, ça va être...
Alors, pour aller au Bhoutan, déjà, c'est compliqué parce qu'il faut un visa touristique. Donc, c'est un pays qui fait extrêmement attention à son tourisme parce que vous avez le roi et la reine du Bhoutan, mais ça, on pourrait en reparler un autre jour, qui sont présentés comme les Kate et William de l'Himalaya.
Oui, il connaît tous les sujets. Il rebondit sur n'importe quoi. Je lui aurais dit Porto Rico, il aurait une anecdote.
Quand
ça, c'est Emmanuel Dutheil. Ça, c'est mon Manu.
Voilà. Donc, allez, on met de côté le roi et la reine du Bhoutan, on en reparlera un autre jour. Mais effectivement, et vous avez totalement raison, Mathieu, ce qui va fonctionner demain dans le tourisme, si je reprends mon langage économiste et moins rigolo, c'est ce qui propose de la valeur ajoutée. Donc, ça peut marcher pour des tour opérateurs. Quand vous regardez le Club Med, ils se sont complètement réinventés parce qu'ils proposent quoi? Généralement des endroits assez géniaux et des services qui fonctionnent plutôt bien. Mais vous avez également tous les tours opérateurs qui sont beaucoup plus spécialisés sur des destinations, vous disiez le Bhoutan, et c'est ça qui va fonctionner demain. C'est-à-dire que quand nous, tout seuls, on ne sera pas capable. Je vais vous donner un exemple. Il y a un pays qui est en train de se développer aujourd'hui pour le tourisme, c'est l'Ouzbékistan. Bon, c'est pas simple de se dire, tiens, je vais aller là demain en Ouzbékistan. On a besoin de conseils, on a besoin de savoir où on s'arrête.
Pas sûr
de
trouver un nouveau hôtel, quoi.
Voilà, on n'est pas sûr de trouver un nouveau hôtel en Ouzbékistan. Donc c'est ça qui va fonctionner demain. Il va y avoir toujours le tourisme de masse, et c'est ça qui sera le gros du tourisme. On va partir en vacances, on se débrouillera tout seul. Et il y aura donc de l'autre côté des ultra spécialistes qui vont nous emmener. Parce que c'est quoi aujourd'hui le luxe du tourisme pour beaucoup d'entre nous? C'est d'aller dans un endroit où personne n'est allé.
Et c'est
par
tout ce qu'on
définition,
cherche,
il faut bien qu'on nous aide un peu.
Vous êtes à l'affiche du nouveau film de Géraldine Nakache, J'irai où tu iras. On sait que vous prenez beaucoup de plaisir sur scène, Patrick, mais le cinéma, surtout quand c'est avec Géraldine Nakache et Léla Becti, c'est pas mal non plus. Hein.
Oui, ça a été un magnifique rendez-vous, puisque maintenant, alors, je joue les rôles de papa, puisque je suis le papa de Géraldine et Leïla. Il a fallu l'accepter tout de suite, ce que j'ai fait immédiatement. Non, j'ai aucune gêne. Je rêvais d'aimer le scénario quand elle me l'a proposé. Je l'ai lu très vite et c'était oui, parce que j'avais vraiment l'impression aussi de connaître ce papa, le papa qu'elle me proposait.
Très différentes l'une de l'autre, dans le film, en tout cas.
Oui, oui. En même temps, elles sont faites du même bois. Hein. Elles ont une sensibilité qui est complètement, pour moi, identique, parce que la même vie, c'est un père veuf, donc elles ont perdu leur maman probablement très jeune. Mais deux voix tellement différentes, deux formes, je dirais, deux enveloppes qui sont complètement à l'opposé. L'une, c'est Leïla, qui est infirmière, qui s'occupe de personnes âgées. Alzheimer et l'autre est dans les paillettes et même dans l'ombre des paillettes, je dirais, puisque elle veut être choriste, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, Leïla. J'adore quand elle lui dit, mais enfin, comment tu peux rêver d'être derrière la chanteuse, quoi, tu vois, c'est pas possible, on rêve d'être chanteuse, pas d'être derrière, enfin dans l'ombre et tout. Voilà, et c'est vrai que il y a tout cet esprit familial et puis l'histoire qui va être racontée par le film.
C'est la question qu'on se pose quand on voit le film. Est-ce qu'il y a du Patrick Timsit dans ce rôle? Est-ce que vous êtes un père comme ça ou pas du tout? C'est juste un pur rôle de composition.
Il y a trop de Patrick Timsit dans ce film. C'est ce qui m'a permis, ce qui m'a gâché la projection, la première projection. J'étais sans le vouloir, ouais. Oui, quelque part on finit par. Est-ce que c'est mon âge qui veut ça? J'avais du. Je pense qu'il y a du papa de Patrick Timsit.
Ah oui, c'est ça. Est-ce que le fait d'avoir aussi deux enfants, deux garçons en l'occurrence, si je ne me trompe pas, ça vous a aidé à vous identifier avec ce papa ?
Non, mais j'ai fait quelques avant-premières et beaucoup de gens identifient ou leur père ou s'identifient en tant que parents. Mais oui, il y a ce côté papa poule, vous savez ce que c'est qu'un père juif ? Une mère normale. Donc forcément, je connais bien ça, ce petit sifflet. Nous, on a un sifflet familial, par exemple. Okay. Mais du coup, les enfants sont libres dans les supermarchés, puisque vous allez de rayon en rayon, quand vous entendez le... Vous pouvez manquer immédiatement. Vous savez que c'est le père qui appelle, comme dans le nid, vous voyez, avec l'oisillon qui redébarque. Donc tout ça, je connaissais. Et c'est aussi, bien sûr, le papa de Géraldine, mais de nombreux
que
pères.
Que vous avez rencontré,
ça,
je crois, le papa de Géraldine. Vous l'avez rencontré pour préparer le rôle ou comme ça, incidemment?
Non, comme ça, incidemment. Mais enfin, quand on rencontre, on ne sait pas qu'on prépare un rôle, mais on pique de toute façon. Moi, je suis un curieux, donc toujours à piquer sans le savoir.
Justement, Géraldine Nakache, comment elle vous a dirigé, parce que je sais qu'elle est fan de vous, ça doit être compliqué de diriger, enfin, quand on vient vous chercher, on vient chercher Patrick Timsit, ça doit être compliqué de lui donner des ordres, lui dire non Patrick, c'est pas comme ça que je le veux, non, elle a pas eu de problème, elle a...
Pas aucun, alors là, tant mieux, il faut se sentir justement cadré, elle a un vrai regard, c'est une réalisatrice, elle a une histoire à raconter, et elle va prendre après des choses aussi que vous pouvez proposer sans le savoir d'ailleurs, on joue, on interprète, on sait même pas, enfin moi je sais même pas ce que je fais, je suis dedans, et puis après elle me dit ça va pas, on corrige ça, si on allait vers ça, tiens reprends-moi ça.
Au sujet de Géraldine Nakache, vous dites à l'image des femmes réalisatrices avec qui j'ai travaillé, elle est venue chercher chez moi des choses intimes qu'on me demande peu ou pas au cinéma. C'est quoi ces choses intimes qu'on vous demande peu? Parce que pour moi, ça fait longtemps que vous n'êtes plus qu'un humoriste. Enfin, vous avez incarné toutes sortes de rôles, parfois très... très profond, très dur, dans le drame. Donc, qu'est-ce qu'elle est allée chercher chez vous?
De temps en temps, je ne sais pas, mais quand elle parle de moi, je regarde, je suis extrêmement surpris. Elle dit, regardez, ça se voit, vous voyez, la fragilité derrière ça. Ben, on voit qui c'est, quoi, on voit le cœur. Moi, je n'ai rien vu de tout ça. Je suis là, peut-être avec une carapace, peut-être très en protection, finalement, sans m'en rendre compte. C'est vrai que Colline Serrault, la tendresse, la naïveté de Michou, j'avais pas donné, j'ai passé deux castings. Moi, le premier, j'ai été extrêmement mal élevé. J'étais en larmes après avoir lu le premier scénar en disant, mais c'est le rôle, quoi. Mais elle me le donnera pas. Donc, j'y ai été, mais très très mauvais élève, un peu comme l'histoire du cric, vous savez, le mec, il crève dans la nuit, un pneu, hein, bien sûr, mais, et puis il cherche un cric, et il a vu un garage dans la nuit, puis il va, il dit, mais je vais pas, 2h du matin, cet enfoiré, il va m'envoyer balader, jamais il me prêtera un cric, il a pas de cric. Il va, il sonne à la porte et le garagiste dit oui monsieur, il ouvre la fenêtre, il allume la lumière, oui qu'est-ce que je peux faire pour vous? L'autre lui dit ton cric tu peux te le foutre au cul. Et vraiment j'étais tellement remonté que j'ai décrit un Michou complètement profiteur. Et elle me dit mais il est quand même gentil ce Michou, mais c'est la naïveté, c'est non. C'est... En sortant j'ai dit mais quel prétence là, t'es vraiment un prétence là, enfin t'es un génie mais elle l'aurait pas vu quoi, si tu lui avais donné ça. J'ai dit mais tu te fous de qui? Et puis elle m'a laissé repasser une deuxième fois le casting, voilà, et elle m'a dit t'as bien fait, c'est toi. Donc Géraldine allait chercher aussi de, moi j'appelle ça du rien, en fait c'est du tout quoi, c'est du, il n'y a pas à composer, elles sont là et elles viennent chercher à l'intérieur.
Et tout de suite avec vous Anne Le Gall, on s'en mitouffe car on part loin, très loin.
En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 20, moins 40. C'est le Nord.
Et pire que l'île Anne, le pôle Nord, vers lequel une expédition scientifique sans précédent se dirige, c'est ça?
Voilà, et vous imaginez un paysage tout blanc, une mer de glace de 90 cm d'épaisseur autour de vous. C'est le spectacle qu'une centaine de scientifiques contemplent en ce moment. Ils sont partis de Norvège il y a une semaine. Ils sont à bord du navire allemand brise-glace Polarstern. Ils vont donc mener la plus grande expédition scientifique au pôle Nord. Leur bateau va rejoindre le cœur de l'Arctique, où ils vont se laisser prendre dans les glaces pendant un an. Alors pour l'instant, c'est plutôt tranquille parce qu'il ne fait que moins 7 degrés aujourd'hui.
Oh, c'est easy.
Voilà. L'équipage peut encore voir le jour, le soleil, mais ça va se corser. Ça va se corser car dans les semaines qui viennent, la température va descendre jusqu'à moins 45 degrés. Alors moins 45 degrés, juste pour vous situer, quand on lance en l'air un seau d'eau, enfin le contenu d'un seau d'eau chaude, ça retombe en cristaux de glace sur le sol.
Ouais, j'ai vécu ça quand j'ai fait le trek du Mont Blanc l'été dernier.
Ben oui, bien sûr.
Effectivement, j'ai vécu ça. Il devait faire au moins,
voilà, mais au moins
3 degrés.
Sur le Mont Blanc, au moins, vous aviez le soleil. Là, ils vont aussi voir disparaître le soleil pendant 150 jours. Ils vont affronter la nuit polaire pendant 150 jours. Donc, c'est comme si la nuit tombait ce soir et ne revenait que le 28 février prochain. Voilà pour
c'est
le contexte.
Horrible.
Et toujours pour vous donner un petit peu l'hostilité de l'expédition, il y a au moins 6 personnes qui seront chargées sur le bateau de surveiller les ours polaires pour qu'ils n'attaquent pas les scientifiques pendant qu'ils feront leurs travaux. Non, parce qu'en fait, les scientifiques vont installer des appareils de mesure tout autour du bateau sur la glace, jusqu'à 50 km à la ronde. Et du coup, ils pourraient éventuellement se faire attaquer parce que le but de l'expédition, évidemment, c'est de bosser. Hein, tout ça, c'est quand même d'étudier l'atmosphère, l'océan,
les températures. Ah, c'est pas une croisière du Ponant ? Parce qu'ils font de très belles choses, je me suis laissé dire, dans le cercle polaire. Belle croisière, avec parfois une animation. C'est très bien.
Le but, c'est d'étudier le réchauffement climatique au pôle Nord. Il y a 600 scientifiques qui sont engagés dans cette expédition. 19 pays, c'est du jamais vu. Et tout cela a coûté 140 millions d'euros.
Et pourquoi cette expédition maintenant ? On n'a pas déjà toutes ces données ?
Ben non, on a beau avoir des satellites, des sondes, des ballons atmosphériques, on a des appareils de mesure dernier cri. Et pourtant, on ne sait pas précisément ce qui se passe en ce moment au pôle Nord, au cœur de l'Arctique. Il faut vraiment une observation de terrain sur la durée. Ça ne s'est jamais fait. Et parce qu'en fait, en matière de réchauffement climatique, c'est au pôle Nord que ça se passe en ce moment. L'Arctique est l'endroit du globe qui se réchauffe le plus. Il a fait plus chaud cette année au cœur de l'Arctique qu'en Allemagne. C'est pour vous dire. Et donc, c'est une partie du monde qu'il faut absolument observer de très près.
C'est le baromètre qui nous permet de constater vraiment le réchauffement climatique.
Ça déterminera aussi le climat sur le reste du globe. Donc, c'est vraiment une expédition à la fois impressionnante et cruciale.
Vous serez à l'affiche d'un film que j'ai envie de qualifier d'OVNI. Vous êtes jeune, vous êtes beau. Premier film de Franch Hindon. Et sans flagornerie, rien que le pitch, on va l'évoquer. J'imagine que ça a été un coup de foot dès le scénario, non, ce film ?
Oui, exactement. Ça a démarré là. Ça a démarré sur la qualité du scénario.
On donne le pitch en deux mots, Eva.
Ah, c'est moi qui m'y mets.
Oui, s'il vous plaît.
Gérard Darmon, vous incarnez Lucius, un septuagénaire.
Comme
on connaît pas,
voilà,
on connaît pas son âge exact. Il a un peu des problèmes d'argent. Il vit très modestement. Et puis, il va rencontrer un homme qui va lui faire une drôle de proposition. Des combats de boxe entre vieux. Je dis de boxe, des combats tout court, pour essayer d'arrondir,
clandestin évidemment,
pour arrondir les fins de mois. Et ça se passe dans des sortes de l'underground, derrière une boîte de nuit en
ça
fait.
Ça se passe dans l'underground, comme vous le
oui,
dites, Eva, tout à fait,
ouais.
C'est ça.
Les bas-fonds d'une boîte de nuit où des jeunes gens très beaux vous regardent combattre.
Ouais. Et donc, coup de foudre dès le scénario.
Coup de foudre dès le scénario, oui. Cette foule qui nous regarde, c'est une foule un peu décadente. Habillé en smoking et robe longue et qui fume du champagne et qui parie sur des vieux avec beaucoup de cynisme. Donc c'est à la lecture du scénario, très franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un scénario aussi bien écrit et aussi fort, donc la question ne s'est pas posée.
Un film vraiment étonnant, vous êtes jeune, vous êtes beau, 20 ans après Fight Club, cette fois ce sont des vieux qui se bastonnent pour se faire un peu d'argent et boucler leur fin de mois. C'est tellement surprenant, des combats de seniors, que je me suis demandé, peut-être bêtement en regardant le film, est-ce que ça existe ? Est-ce que le réalisateur a vu ça quelque part dans le monde ? Je ne sais pas, évidemment c'est clandestin et c'est un interdit, mais comment lui est venue cette idée ?
J'ai eu la même curiosité que vous et j'ai rien trouvé... Fort heureusement.
Oui, heureusement,
parce que franchement, ce serait lamentable quoi, si ça existe. Il faut le dénoncer. Et pourtant, je ne suis pas trop dénonciateur, mais là, mais là, là oui.
Alors, ouais. Ce film, c'est aussi le portrait d'une grande solitude, celle de personnes âgées, précisément deux solitudes parallèles, celle de Lucius et de Mona, sa voilà. compagne, incarnée divinement, il faut le dire, par Josiane Balasko. Ouais. C'est un film qui dénonce aussi.
Oui, c'est un film qui montre, donc je ne sais pas si ça dénonce, en tout cas ça montre sans effet de manche, voilà. Mais c'est pas un film sur la vieillesse, hein. On suit des personnages qui sont vieux. Moi j'aime, contrairement à ce qui se fait en ce moment, j'aime bien le mot vieux, moi. J'aime pas senior. Senior, je trouve que c'est quand on joue en ligue.
Eva, vous avez été intriguée par ce film.
Moi, j'étais intriguée.
Vous m'avez passé
bouleversée.
Un coup de fil. Ouais. Vous m'avez dit, regarde-le vite.
Oui, regarde-le vite. Ouais. Et puis, c'est marrant parce que vous dites que ce n'est pas un film sur la vieillesse, mais quand même, il y a une phrase que dit Mona au bout d'un moment, au début du film, elle dit, c'est une honte ce pays qui laisse mourir les vieux comme ça. Oui, oui. Voilà. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un aspect social dans le film.
Mais évidemment, ce n'est pas, si vous voulez, une espèce de docu-fiction.
On est d'accord.
Sur la vieillesse, l'état des vieux en France.
Tout à fait.
Voilà, ce sont deux personnages tout à fait indépendants et libres, j'allais dire.
Et c'est un film, il faut le dire aussi, merveilleusement, comment dirais-je, la photo est très très belle. Je crois que le réalisateur vient de la photo.
Il vient de la photo, il a fait beaucoup de photos chez lui en Chine. Ils sont en France depuis 20 ans, je dis ils sont parce que la productrice, qui est sa femme, donc c'est un couple très très dynamique et très très talentueux, je trouve. Il y a quelque chose de Hopper un peu dans sa photo,
ouais,
des
éclairs obscurs,
des jaunes comme ça, c'est très très joli, c'est très très beau.
On rappelle, c'est l'histoire d'un septuagénaire très très modeste, très seul, qui pour boucler ses fins de mois et payer sa future maison de retraite, va accepter de participer à des combats de seniors clandestins. C'est un film qui montre une vieillesse à la dérive, larguée, paupérisée surtout. C'est un film qui parle des gens qui n'ont plus les moyens de se payer une maison de retraite, en fait, et qui sont prêts
à tout. La solitude. Ça parle aussi de ce dont on parle moins souvent au cinéma, c'est-à-dire les rapports amoureux des vieux, du troisième âge. Une histoire d'amour, même une scène de lit. C'est rare de voir les vieux faire l'amour au cinéma.
C'est encore plus rare de vous voir faire l'amour au cinéma.
Oui. Eva Rock. Vous qui détestez les scènes de nu, au sens propre et au sens figuré,
c'est vrai.
On voit vos fesses, mais au sens propre et au sens figuré, j'étais très étonnée que vous mettiez aussi à nu, à la fois physiquement...
Mais parce que je trouve que ça servait complètement le personnage, et j'ai pris 10 kilos pour faire ça, il fallait vraiment qu'il y ait une déchéance physique, que toutes les chairs tombent. J'ai pas eu à me forcer beaucoup. Et puis, voir de dos comme ça, une espèce de pauvre mec dans un vestiaire, je trouvais ça plutôt fort et il fallait le faire.
Et quand vous êtes vu, quand vous avez vu la première projection
Pour moi, c'est irregardable. Hein,
ouais.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
C'est compliqué.
Mais déjà, vous avez du mal à vous regarder en temps normal dans les films, apparemment.
C'est vrai.
Vous n'aimez pas trop ça.
Vous savez, au cinéma, on se voit de dos, de profil, oui. On se voit jamais comme on se voit dans la vie. On se voit marcher, on se voit... C'est compliqué, moi, c'était irrespirable pour moi, et depuis toujours, et ça ne s'améliore pas avec le temps.
Et vous avez, vous, un rapport particulier au temps, puisque vous l'avez raconté souvent, mais il faut redire, vous êtes né un 29 février, ouais. Et donc par conséquent, vous n'avez pas encore tout à fait 18 ans.
J'ai 17 ans et demi. 17 ans et demi.
Mais c'est pas anecdotique pour vous,
Ça ne l'était pas quand j'étais môme, hein, que j'avais vraiment l'impression de ne pas exister, de ne pas avoir de jour anniversaire.
On vous fêtait pas votre anniversaire le 28 ?
Vous êtes né quel jour ?
Le 13 novembre. C'est pas
on vrai. Vous le fête le 12 ?
Non.
on vous le fête le 14 ? Bon alors, de quoi tu parles ? C'est marrant ça.
Bon. À part vos dessins, mettez-vous des photos de vous sur les réseaux sociaux ?
Pratiquement jamais.
Et vous faites bien ! Parce que visiblement, figurez-vous que les agents du fisc traquent aussi nos comptes Instagram. Face à vous, Plantu, une icône du Paris by Night. Oui, Clo-Clo revient beaucoup dans le Paris by Night. Il est de toutes les soirées, même les plus orgiaques, même les plus décadentes. Mais notez que même au cœur d'une partie fine, son statut de chef du service éco d'Europe 1 lui permet d'avoir certaines exigences.
Non, parce que je veux que mes pieds touchent le sol.
Et oui, il est comme ça. Bref, il s'est resté digne en toutes circonstances et surtout, il connaît le truc. Jamais une seule photo de tout ça sur Instagram, évidemment, Emmanuel.
Oui, je suis quand même allé espionner vos comptes Facebook, vos fils Twitter, même les petites annonces que vous postez, tout ce que vous en êtes sur le bon coin. Pourquoi j'ai fait cela ? Eh bien parce que le fisc va avoir le droit d'aller vérifier comme ça nos vies, vos vies, pour voir si ce que l'on déclare colle bien avec nos déclarations de revenus. Bon, effectivement, je suis allé voir tous vos comptes Plantu. Vous risquez, vous, pas grand-chose. Vous postez, effectivement, je crois, elle est quasi exclusivement vos dessins sur les réseaux sociaux. Vous, Mathieu, c'est pas pareil. Est-ce que vous n'auriez pas oublié de déclarer cette magnifique licorne dans cette non moins somptueuse piscine dans laquelle vous étiez, semble-t-il, très bien, le 1er août, je suppose, c'était ce qu'il n'y avait pas
de
lieu.
Je tiens à préciser que ce n'était pas une piscine, c'est un bassin, n'est-ce pas?
Ouais, enfin,
qui respecte
un beau bassin,
les dimensions d'un bassin. Voilà. La licorne m'a coûté à peu près 19 euros.
C'est ça, donc un beau bassin, une belle licorne. On peut trouver, pour ceux que ça intéresse, cette photo sur votre compte Instagram. En tout cas, sachez que maintenant, le fisc a le droit d'aller zioter comme ça nos vies sur les réseaux sociaux. C'est tout nouveau. Hein. Je vous ai emmené là quelque chose de passionnant.
Mais il n'y a pas eu une loi qui est passée là-dessus.
Non, mais si vous n'arrivez pas à dormir, c'est dans le projet de loi de financement du budget.
Ça fait vraiment envie.
C'est ça qui s'appelle baisser les impôts, préparer l'avenir. Hein. C'est beau, ça fait rêver. Eh bien, c'est là-dedans. C'est une toute nouvelle disposition qui va entrer en vigueur.
Pourquoi faire ça, Emmanuel, si je n'ai rien à me reprocher?
Alors peut-être que vous, Mathieu, vous n'avez rien à vous reprocher, quoique. Mais imaginez quand même, pour certains, cette jolie photo avec une très très jolie Porsche, comme ça, un week-end en forêt. Tiens, le fils va se dire, elle n'a pas été déclarée, la Porsche. Imaginez, allez, on va prendre un autre cas. Officiellement, vous êtes résident belge. Ça peut arriver à pas mal de gens. Mais vous passez, tiens, un tout petit peu plus que 183 jours en France, et on le voit comment? Parce que vous êtes dans la fameuse soirée toche où on est allé ensemble, Mathieu, ou dans d'autres événements qui sont non moins intéressants. Bref, on dit parfois finalement plus de nous sur les réseaux sociaux que ce qu'on a bien envie de dire au fisc. Alors, attention, pour le moment, c'est juste une expérimentation qui va être lancée de 3 ans, mais en tout cas, ça en dit quand même beaucoup sur l'évolution du fisc. On se dit souvent qu'ils ne répondent pas au téléphone, mais ils savent quand même bien aller regarder sur les réseaux sociaux.
Mais est-ce que tout ça respecte ma vie privée?
Alors, il faut savoir que déjà, l'État utilise aujourd'hui les nouvelles technologies pour détecter la fraude. Ils arrivent à se rendre compte comme ça en faisant tourner les algorithmes. Jusque-là, c'était uniquement à partir des données dites publiques dont disposait l'État. Là, ce qui est donc tout à fait nouveau, c'est le fait d'aller regarder dans nos données personnelles. Et c'est ce qui fait tiquer la CNIL, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est justement le gendarme des données personnelles. Ils ont émis, c'était très récent puisque c'était avant-hier, un avis disant que ça pourrait être susceptible de porter atteinte à la liberté d'opinion et d'expression des personnes concernées. Alors lui, le gouvernement veut rassurer, il nous dit que les données scrutées ne seront conservées 30 jours s'il n'y a aucun problème, et ça pourrait être conservé jusqu'à un an s'ils se disent que tiens, il y a peut-être un petit loup, la fameuse Porsche ou votre fameuse licorne, Mathieu, et là s'ils ne trouvent rien, ça sera détruit dans tous les cas au bout d'un an si ça ne débouche sur un. Donc vous plantez, vous risquez vraiment rien, vous pouvez tout à fait continuer à poster vos dessins sur les réseaux sociaux, mais donnez-moi quand même mes 3 points parce que je le rappelle à tout le monde, c'est mon anniversaire.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Alain Sirou, comment vous avez trouvé Dutheil?
Alors, il était ridicule de chez Ridicule.
On peut te faire play Alain quand même. Heureusement, le bonheur de nos campagnes permet à certains journalistes d'Europe 1 d'être un peu plus fringants qu'Eva. Bonjour Jean-Luc Boujon.
Bonjour Mathieu.
Vous allez nous parler de footballeurs de la Loire qui en ont tellement marre de leur terrain de foot pourri qu'ils ont carrément mis en vente ce terrain de foot sur le Bon Coin.
Ouais, et Mathieu, si vous avez 100 000 euros, il est à vous ce terrain. Je pense même que vu son état, vous pouvez avoir une petite ristourne parce qu'ils en peuvent tellement plus de ce terrain, les joueurs de Saint-Denis de Cabanes près de Rouen. En fait, c'est un terrain en stabilisé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Hein,
oui.
Vous voyez beaucoup ça. Ouais,
j'ai beaucoup joué au foot dans ma jeunesse, Jean-Luc, vous savez, je vois très bien ce que c'est qu'un stabilisé.
Ils en peuvent plus de ce terrain en stabilisé, en terre et en sable. Et cette terre et ce sable, c'est tout le problème. Selon Yann Perrin, le trésorier du club, écoutez.
Chaque week-end, on subit les moqueries, voire les insultes même des certains adversaires. Quoi.
Ah bon, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils sont pas contents de venir chez nous, que c'est pas normal de jouer sur un terrain de merde. Ils viennent jamais avec le sourire. Quoi. Quand c'est sec, ça fait des nuages de poussière phénoménales. Et quand il pleut, c'est des flaques d'eau immenses, finies trempées.
Parfois ça ralentit le ballon?
Ah bah complètement oui. On n'a pas l'impression qu'on est sur un terrain de foot tellement que c'est incroyable.
Est-ce que parfois ça vous a sauvé le ballon, il n'est pas rentré?
Ah oui, ça carrément. Il y a des fois ça nous a souri, des fois ça sourit à l'adversaire. Ça nous a fait rigoler quoi sur le coup, hein, bien sûr. Hein. Et au fur et à mesure quand même, avec le temps, avec les années, on en a marre. C'est pour ça qu'on a cette volonté de changer. Quoi.
Mais ça les fait plus rigoler. La petite annonce du Bon Coin est quand même assez drôle, Jean-Luc. Hein.
Ouais, ils ont fait le choix de l'humour pour attirer l'attention sur eux. Hein. Ils ont conscience que c'est pas non plus la fin du monde, mais par exemple, l'annonce parle d'un terrain de 6000 m² où les enfants l'été pourront faire des châteaux de sable, ou l'hiver, si vous êtes apprenti pêcheur en eau peu profonde, vous pouvez attraper de la petite friture. Vous voyez, ils sont assez drôles. Et cette carte de l'humour, c'est un peu pour alerter notamment la mairie de Saint-Denis-de-Cabanes qui depuis des années leur dit on n'a pas l'argent pour refaire un terrain, ça coûte trop cher, on est une petite commune. C'est aussi le seul terrain en stabilisé de la région. Hein. Tous les autres villages aux alentours, ils ont soit de l'herbe, soit du synthétique, donc plus moderne. Donc ils ont l'impression d'être un peu les parents pauvres. Donc ils font un appel sur le mode plutôt marrant à tout le monde, hein, donc la mairie, mais aussi le département de la Loire, ou pourquoi pas la région, hein, coucou Laurent Wauquiez hein, s'il nous écoute, ou tout autre mécène privé qui aurait de l'argent dont il ne saurait que faire. Vous avez peut-être des amis autour de vous, en Suisse, hein, pourquoi pas Mathieu, qui pourrait les aider.
En Suisse, non, mais mes grandes nouvelles, puisqu'à l'instant, une généreuse donatrice privée, Eva R. de Paris, vient d'annoncer qu'elle mettait 10 euros pour ce terrain. Alors, c'est un début, mais il faut y croire.
Ça démarre petit. Hein.
Bah oui, je suis désolée.
Merci Jean-Luc Boujon.
Merci Mathieu, à bientôt.
Des enfants, je crois justement, vous nous disiez que vous en rencontrez beaucoup tout au long de l'année dans les écoles. Vous allez à la rencontre des jeunes.
Avec Cartooning for Peace, l'association que j'ai créée avec Kofi Annan, qui était secrétaire général de l'ONU, on a réuni des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans. Bon, c'est très bien. Et puis, on s'est rendu compte, par exemple, j'étais du côté de Toulouse, et il y en avait un qui levait le doigt et qui voulait me parler, et les autres lui disaient, non, lui, c'est le feuge. Bon, alors, je vais voir les profs, et les profs, non, il n'est pas juif, mais ils ne l'aiment pas. Et donc, quand ils n'aiment pas un gamin, ils l'appellent le juif.
Ah,
donc,
oui.
C'est une école où, quand il y en a un qui est en prison, quand il revient, c'est le caïd de la classe. Oui. Voilà, il y a une ambiance. Quand les filles vont aux toilettes, ça ne suffit pas qu'elles aient un code, il faut qu'elles aillent à trois, sinon elles seront violées. Je me dis, mais attends, on est où là? Donc il y a tout un travail à faire, et c'est la raison pour laquelle je suis très fier du travail de Cartooning for Peace, parce qu'on fait venir des dessinateurs israéliens, palestiniens, pour des sujets un peu... c'est pas facile, mais à la fois on crée une fondation qui va s'appeler Fondation Plantu, qu'on va commencer la semaine prochaine, et qui va nous permettre de faire ce lien avec des gamins qui sont un peu ce que j'appellerais des oubliés de la République, et puis pour faire un lien avec leur passion, des artistes, des gens de cuisine, des sportifs comme Laurence Fischer qui est
parce que vous m'avez montré du doigt, j'étais content, je me suis dit des sportifs, j'ai cru que vous parliez de moi.
Oui, mais vous avez un polo qui fait du sport, vous faites du sport ou
pas? Je fais beaucoup de natation, je le signale à vos auditrices.
C'est très bien, dans quelle piscine?
Ah ça, je ne peux pas donner le nom de la piscine.
Parce que moi,
il y aurait trop de fans, vous savez,
Mais moi, je suis dans le dixième, mais moi, je voulais faire...
Oui. On va être voisins, Plantu.
Oui, mais alors, vous n'allez peut-être pas dans la même piscine, parce qu'elle est complètement disloquée, et j'ai voulu mettre mon sac après mes affaires. Tout était cassé, et j'ai voulu... alors, on m'a dit, vous prenez votre sac et vous le mettez le long du bassin. J'ai dit, d'accord. Mais... Et donc, ce qui fait que moi, j'y allais pour me détendre les muscles. Et je suis arrivé en bout de ligne. Il y avait un autre barbu, un peu comme vous. Mais qui mangeait un couscous? Et il mangeait son couscous, je suis sûr. En bout de ligne, c'était le maître nageur. J'ai dit, mais où est-ce que je mets mon sac? Mais il ne voyait pas tous les autres sacs, vous les mettez là. Donc, j'ai posé mon sac, mais j'ai nagé. Mais j'avais un torticolis parce que je regardais si mon sac n'était pas volé. Et donc, c'est pour ça que je ne fais pas de sport.
Si des jeunes nous écoutent, pourquoi pas, c'est possible. Comment vous définiriez votre métier de dessinateur de presse pour vous qui faites la couve du monde depuis plus de 30 ans? C'est vrai que Plantu fait partie de nos vies. On voit son dessin chaque jour dans le monde. Mais comment vous définiriez votre métier?
Dessinateur de presse, j'irais même jusqu'à le mot artiste, que je n'osais pas utiliser avant.
C'est vrai?
Non, parce que mes parents, quand je faisais l'intéressant, comme ils disaient, arrête de faire l'artiste. Et j'avais bien compris que c'était un mot péjoratif. Et donc, puis artiste, il y avait un côté... je me souviens, une fois, j'étais allé à une réunion de dessinateurs, et puis il y en avait un qui était rentré, il travaillait au Canard Enchaîné, ouvert la porte comme ça, il dit, on ne me met pas mes dessins derrière la porte des chiottes. Et donc gros scandale. C'était l'époque où tous les dessinateurs, il y a toujours un scandale. Et je me disais, ça, je ne veux pas faire ça. Ça ne m'intéresse pas. Et moi, pour moi, c'était le côté artiste. Et finalement, depuis 10 ans, je leur dis, je suis à la fois artiste, dessinateur, journaliste, éditorialiste, mais en précisant Canada Dry d'éditorialiste, parce que ça a le goût, ça a la saveur, mais c'est pas tout à fait de l'éditorial.
Le grand quiz. Plantu, tous les jours, un quiz thématisé oppose notre invité à Eva Rock. Eva, je vous laisse prendre connaissance du thème du quiz aujourd'hui. Voici la feuille.
C'est quoi ce bordel?
Restez poli. Plantu, en hommage à tous les hommes et les femmes politiques que vous avez croqués durant votre carrière, on va faire un quiz sur eux. C'est un vrai faux. Chaque bonne réponse vaut un point. Plantu, François Fillon a fait de la figuration dans L'Aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch avec Brel, Ventura et Aldo Machon. Vrai ou faux?
Je n'en sais rien du tout. C'est drôle. Je dirais oui, comme ça. Hop.
Pas de chance, Plantu. C'était faux. Par contre, il a bien fait de la figuration dans le film Le Mans, sorti en 71, où jouait Steve McQueen.
Avec une F1.
Eh oui, il a fait de la figuration. Impossible de le voir à
l'écran.
C'était
ça, le piège.
Là encore, il faudra le croire sur parole, comme dans beaucoup d'autres affaires. Eva Rock, le président Giscard d'Estaing a failli mourir d'une attaque de panda. vrai ou faux?
Ah ça j'adore. Oui, je dirais vrai, ça me fait rire.
Ça vous fait rire, donc vous dites vrai. Je pourrais dire n'importe quoi, mais tant que ça vous fait rire, d'accord. Eh ben c'est vrai, vous avez de la chance. La fille de Valérie Giscard d'Estaing faisait un stage de vétérinaire au zoo de Vincennes alors que son père était président. Voulant montrer, je cite, le courage d'un président, Giscard est entré dans la cage de Yen Yen qui lui a tout de suite sauté dessus. Sans le gardien, le président serait mort assassiné par un panda. Yen Yen est mort, lui, en 2000. Valérie Giscard d'Estaing, 1. Le panda, 0. Attention, une question, trois propositions. Vous jouez ensemble. En 2015, Alain Juppé se met à Twitter. Quand le compte Les Jeunes avec Juppé lui demande ce qu'il ressent en faisant une interview via ce réseau, quelle est sa réponse? 1. Je kiffe ma race. 2. Je prends mon pied. 3. Je grimpe au rideau.
Moi, je crois que j'ai la réponse.
Moi aussi.
Oui.
Alors, plante-tu, notre ami.
Je dirais, je kiffe ma race.
Oui, c'est ça.
Oh, oui, vous vous en souvenez? Eh bien, non, il a déclaré, je prends mon pied.
Ah, ben voilà, alors moi, je suis tombé dans le piège parce que j'étais persuadé qu'il avait dit ça.
C'est ce que signifie je prends mon pied. Peut-être là aussi,
oui,
c'était pas très opportun. Qui remporte ce quiz? C'est Eva qui remporte le quiz.
Mais oui, pour une fois.
Je vais vous dire, plante-tu est un sacré gentleman. C'est rare qu'Eva remporte un quiz. Bravo. Les retrouvailles d'Olivier Pouls et Pierre Arditi. Une amitié qui a failli mal tourner cet été quand Pierre a proposé un glaçon à Olivier.
Ah, pas de glaçon, non, malheureux, non, ah non, pas de glaçon dans le rosé.
Que de souvenirs, hein. Ah, mais alors là. Olivier, aujourd'hui, vous nous proposez une recette qui va plaire à Pierre, et non pas qui va Pierre à plaire, parce que sinon ça n'aurait vraiment aucun sens, on est d'accord. Il a ça en commun avec mon fils de 7 ans, les frites.
Bah, Pierre, vous êtes à moitié belge.
Je ne me trompe pas. Aux yeux de la religion belge, je suis belge, ma mère était belge.
Et on me dit que l'une de vos madeleines de Proust, ce sont les frites que vous faisiez votre maman.
Ah oui, je n'ai jamais remangé ça, mais sans doute parce qu'elles avaient le goût d'une enfance chérie et que par conséquent, ça, personne, à part ma mère, ne pourrait me le redonner aujourd'hui. Mais enfin, il y en a de bonnes. On en a mangé de très bonnes.
Voilà, je vais essayer de vous donner quand même les trois commandements pour réussir de manière infaillible des frites exceptionnelles qui vont se rapprocher, qui n'atteindront pas le niveau évidemment, non, mais qui vont se rapprocher de celles de votre mère. Premier commandement, la variété des pommes de terre. La binche, bien sûr. Il faut une pomme de terre à chair farineuse.
Ça se trouve pas partout, ça ?
Oui, ça se trouve assez facilement en ce moment, même dans les grandes surfaces.
Oui.
On les épluche, on les laisse tremper dans l'eau. Très important, au moins une heure, parce que ça permet de dégager un petit peu de l'amidon, et il n'y en aura pas trop. L'amidon, c'est l'ennemi de la frite, ça fait des frites molles. Ouais. Donc on les laisse tremper dans l'eau. On les coupe ensuite assez grossièrement. Moi, j'aime bien une taille plutôt épaisse, hein, pas de la trop petite taille.
Oui.
On est d'accord ?
Oui, absolument.
Voilà.
Absolument.
Premier bain, et alors là, deuxième grand commandement essentiel, c'est la matière grasse. Dans de la...
graisse de bœuf.
Exactement, du blanc de bœuf. Et là aussi, on peut commencer à en trouver, même dans les grandes surfaces.
C'est un peu plus compliqué.
C'est un peu plus difficile, ouais. Ça demande un peu de recherche, mais franchement, on est récompensé. Premier bain, cuisson lente. 140 degrés pendant 8-9 minutes. C'est un petit peu long, mais ça permet de blanchir la frite et de la cuire à cœur. Ensuite, troisième commandement fondamental, le temps de repos. Il faut que les frites refroidissent totalement entre le premier et le deuxième bain. C'est ce qui va permettre d'avoir une frite croustillante.
Vraiment, il faut qu'elle soit froide.
Certains les mettent même au frigo. On peut, à la limite, si on veut accélérer un petit peu.
C'est pas sacrilège.
Voilà. Et ensuite, deuxième bain, 180 degrés, 2 minutes 30, et c'est là qu'on a la frite qui croustille. Voilà. Si vous faites ça, je vous garantis des frites exceptionnelles.
Mais alors, pourquoi il vous a fallu à peu près 2 heures pour faire ces frites chez moi la dernière fois, sachant que vous avez coupé l'installation électrique, ça a fait sauter les plombs parce que vous avez posé la friteuse sur les plaques à induction?
Eh bien, c'est vrai.
Là, vous avez dit 9 minutes et 3 minutes. Là, le compte n'y est pas.
Non, mais vous avez mal compté parce qu'il faut une heure de temps de trempe des pommes de terre dans l'eau. Et il faut au moins une heure de temps de refroidissement entre les deux
bains. C'est pour ça que l'apéro a duré longtemps.
Ben voilà, exactement.
Oui, je vois. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte.
Changez votre tableau électrique.
Oui, je changerai pour votre prochaine venue, la prochaine fois.
Oui, parce que ça ne marche pas forcément avec des Duracell. Hein, ça, c'est pas... C'est vraiment, ça s'épuise.
Vous nous parlez, Nicolas, des livres cultes de l'adolescence, les fourmis.
Eh bien, bien sûr, on commence par Les fourmis, écrit par Bernard Werber en 1991. Et moi, c'est un roman que mon frère m'a passé quand j'avais 13-14 ans. Et c'est souvent comme ça avec les livres cultes. C'est quelqu'un que vous aimez bien, qui vous le donne et qui vous dit, il faut vraiment lire ça. Et donc, Les fourmis, ce qu'il y a d'exceptionnel, je vous rappelle l'histoire. Donc, il y a d'un côté le monde des humains, avec le héros qui s'appelle Jonathan Wells, qui est le neveu d'Edmond Wells, qui est l'auteur de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui est dans pratiquement tous les livres de Bernard Werber. Et puis, de l'autre côté, il y a le monde des fourmis, alors avec les héros qui sont 103 683e, qui est une fourmi rousse, et 327e, qui est une fourmi mâle. Et en fait, c'est ça ce qui est génial, c'est qu'on se retrouve dans ce monde des fourmis complètement inconnu, pour la plus, mais un peu mieux maintenant grâce à Bernard Werber, mais à l'époque on n'avait jamais entendu parler de ces communications, de cette société incroyable des fourmis, de milliards de milliards d'habitants, et voilà, et ça ouvre un monde, et c'est ça un livre culte, ça ouvre un monde, ça ouvre de nouveaux horizons, c'est exactement la définition. Et en plus, ce qui est génial chez Bernard Werber, c'est qu'il donne des petites astuces, il y a des idées comme ça, et par exemple sur la quatrième de couverture des fourmis, je me souviens, c'est écrit, le temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nées sur
mais
la
oui,
planète. Et alors, il propose une énigme aussi que je vous propose maintenant, on la révélera peut-être à la fin de l'émission, c'est comment faire 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes. Voilà, je ne vous dis que ça, essayez chez vous,
quatre
on en reparle
sans
coller. 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes. Comment on fait ? Voilà. Alors, il y a d'autres livres cultes dans le genre qu'on peut lire quand on est ado, c'est qui
moi,
sont importants.
Moi, je m'en fous, je fais les mignons.
Moi, je vous écoute, Nicolas, allez-y.
Il y a Boris Vian, bien sûr, avec L'écume des jours. Pourquoi ? Oui. Parce que je pense que c'est une bonne entrée en matière dans ce qu'est la littérature. Parce que chez Boris Vian, il y a toujours un petit décalage, un tout petit soupçon de surréalisme et surtout une poésie qui ne se voit pas. C'est-à-dire, ce n'est pas des vers ou des alexandrins, etc. C'est de la poésie dans ce qu'elle a de plus pur, c'est-à-dire la poésie de la vie, la poésie des petits gestes, la poésie comme ça, justement de ce petit décalage. Vous savez, il y a le piano cocktail qui est un piano
qui
permet de faire
cocktails,
un cocktail en fonction de son émotion. Ça, c'est hyper poétique. Et sans en avoir l'air, et ben, on comprend ce que c'est que la poésie et la littérature. Il y a aussi Dumas de Monte Cristo qui est hyper intéressant de ce
Monte
point
Cristo de Dumas plutôt.
Monte Cristo de Dumas, pardon.
Parce que l'inverse, je ne suis pas au courant de ce livre-là.
Il est tellement iconique que c'est pratiquement lui l'auteur maintenant, Edmond Dantès. Donc c'est génial ça parce qu'on peut le lire quand on est adolescent, on a un super roman d'aventure avec tout l'épisode au château d'If où Edmond Dantès se transforme pour devenir Monte Cristo, il y a une évasion extraordinaire et tout ça, c'est un super roman d'aventure, il y a de la vengeance, il y a de l'action et tout ça. Mais quand on le relit après vers 30 ans, on se rend compte à quel point c'est un roman noir, vraiment terrible en fait, et qui nous interroge sur nous-mêmes, sur notre façon d'être et de toujours avoir du ressentiment et de la rancœur et essayer de... Voilà, c'est ça la morale de l'histoire, c'est de se dire la vengeance ça sert à rien. Bon, c'est deux niveaux de lecture qui sont super importants et qui peuvent être fondateurs. Voilà.
Ah ben voilà, cette belle chute, Nicolas. Toute la chronique était bien sur cette chute.
Non, j'en ai
peut-être.
Un autre, mais je me dis qu'on n'a peut-être pas le temps.
Donnez-nous
ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment génial.
Bernard, vous rajouteriez un titre à cette liste ?
Oui, Des fleurs pour Algernon.
Ah, oh, c'est beau
de
ça.
De Danny Kaye, qui est l'histoire de quelqu'un de bête qui devient intelligent. Et ça m'a l'air le principe de tout roman, c'est faire que quelqu'un, en tout cas d'endormi, devienne éveillé. Et dans Des fleurs pour Algernon, on comprend qu'être intelligent, ce n'est pas forcément un avantage. Et par moments, être bête, ça aussi,
ça
a un intérêt.
Patrick, comment vous trouvez l'émission jusqu'à présent ?
Longue mais belle !
Ah !
Mais longue mais
oui.
belle !
Non !
Mais longue mais
oui.
belle !
Oui, mais bien ! Mais bien quand même, non. Patrick !
Formidable, je m'ennuie pas. Pas une seconde.
Vous êtes à l'affiche de J'irai où tu iras, le nouveau film de Géraldine Nakache, vous y incarnez son papa. Vous direz que c'est plutôt une comédie ou une comédie dramatique ? Il y a quand même, on rigole beaucoup, mais il y a quand même des moments, il y a des moments très émouvants.
Ouais, ouais, ouais. Petite larme aux yeux quand même, hein.
Ouais, alors ah ouais, oui. c'est vrai que c'est compliqué toujours de définir comédie sociale, comédie dramatique. Moi, je dirais que c'est un film, un bon film avec des émotions. Et en fait, on rit, on pleure et finalement, ce qu'on veut faire, c'est faire passer de l'émotion dans un spectacle aussi. On a ces moments-là, mais il y a beaucoup de gens qui pleurent aussi beaucoup et voilà, heureusement qu'ils rient, on va dire.
Ça compense. Ouais. Patrick Timsit, on le disait, vous serez à l'affiche de J'irai où tu iras, le nouveau film de Géraldine Nakache. Selon l'expression consacrée, on ne vous présente plus. Mais on fout la musique de Champs-Élysées pour souligner que vous êtes quelqu'un d'important. Plus de 40 films à votre actif, des one-man shows qui ont marqué leur époque. Mais comment vous voyez Patrick Timsit ? Voici Patrick, non pas un micro-trottoir, indigne de la créativité de cette émission, mais un micro-trot-trash. C'est pareil, sauf qu'on a tout gardé.
Patrick Timsit, c'est pour toi ça.
Un clown, je sais pas, il a un faciès de clown, mais dans le bon sens du terme, quoi. Humoriste, comédien, peut-être metteur en scène. Il a pas fait des films au cinéma ? Sur Notre-Dame de Paris.
Un indien dans la ville ?
Il joue dans les 11 commandements. C'est fifou.
C'est lui qui a joué dans La vérité, c'est le jeu.
Patrick,
vraiment très sympa, c'est mon voisin en plus. On habite pas loin. Ah, il a beaucoup de charme. Ah ouais, moi je trouve qu'il a beaucoup de charme. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Je trouve qu'il a une présence. Hein.
Il est charmant.
C'est quelqu'un qui est comme on le voit à la télé, il est dans la vie. Hein.
Patrick Timsit.
Ouais, les filles, elles sont à
tout gardé,
fond.
C'est quand même très positif.
C'est très
tout
positif,
ça.
Oui. On vous dit, on a tout gardé. On est comme ça. S'il y avait une vacherie, on l'aurait laissé.
Y compris les 06.
Voilà,
si je ne balance pas une énormité un peu grassouillette et tout ça, c'est pas possible. Je peux pas. Après, on va tomber dans la mièvrerie. Mais oui. C'est touchant quand même, non? Ça vous a touché?
Je me mets à votre place. C'est touchant.
Ça vous toucherait. Et malheureusement, j'ai fait un micro-trottoir et ça donne pas la même chose. Allons-y, top régie, top régie.
Mathieu Noël, je connais pas.
Ben Mathieu Noël, je sais pas du tout qui c'est.
C'est quoi Mathieu Noël?
Je sais pas qui est Mathieu Noël.
Je pense pas grand chose de Mathieu Noël, mais je connais pas.
Ah oui, ben je le connais, je bosse avec. Franchement, bof, c'est un relou.
Voilà, le micro-trash, Mathieu.
Femme de pouvoir, mais aussi femme fatale, qui a réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Voici Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1 et compétitrice redoutable. Elle est très excitée de vous rencontrer aujourd'hui, Gérard Darmon. Alors, Ève, vous êtes que convenablement préparée?
Le minimum hygiénique.
Oui, non, je parlais de la préparation de la chronique, Ève, techniquement. Bref, le message est passé. Gérard, Ève, Gérard. Et alors, c'est marrant l'esprit humain, puisque pour taper dans l'œil de Gérard Darmon, vous avez décidé de parler vasectomie.
Non, c'est une tendance de fond, et les chiffres sont implacables, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Le nombre d'hommes qui ont pratiqué une vasectomie, c'est-à-dire qui ont dit stop aux spermatozoïdes, a été multiplié par 5 depuis 2010. Et depuis 2017, ça monte en flèche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la crise de la pilule est passée par là. Les femmes s'inquiètent maintenant de l'impact des hormones sur leur santé. Pilule, stérilet, anneaux ou patch. Et quand elles tournent la tête, qu'est-ce qu'elles voient? Eh bien, un homme. Et elles lui disent, eh bien, pourquoi pas toi? Alors, c'est ce qui est arrivé à Olivier. Olivier a eu une discussion avec son épouse qui ne pouvait plus prendre la pilule. Et lui, il s'est fait opérer à 39 ans. Ils avaient déjà 3 enfants. Et vous allez l'entendre, ça ne lui a posé aucun problème.
Je ne considère pas du tout ça comme tabou. C'est vrai qu'il y a peut-être pas mal d'hommes dans leur tête qui pensent qu'après une vasectomie, on est moins viril qu'avant, que ça change quelque chose, alors que ça ne change rien du tout. Au contraire, moi, ça m'a plus épanoui qu'autre chose.
Et oui, la France a du retard parce qu'en France, comme dans beaucoup de pays méditerranéens, ne plus avoir de spermatozoïdes, eh ben, c'est considéré comme une atteinte à la virilité parce qu'on confond fertilité et virilité. Alors moi, j'ai fait une première découverte, c'est que la vasectomie, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Il faut se figurer donc les testicules qui fabriquent les spermatozoïdes. Oui. Qui sont reliés à la prostate, et c'est ce tuyau entre les deux qu'on coupe. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'éjaculation. Parce que ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, les spermatozoïdes ne représentent que 2 à 3% du liquide séminal. Donc ça veut dire que c'est rien du tout. Ça ne change absolument rien. Il y a bien éjaculation, même s'il y a...
J'éjacule de la bière, donc. Enfin,
Alors, ce que vous appelez la bière, c'est du liquide séminal, c'est des nutriments, c'est des facteurs chimiques qui aident les spermatozoïdes à grossir, à être plus mobiles, etc. Mais ce ne sont pas des spermatozoïdes.
Et est-ce que ça marche tout de suite?
Alors, malheureux. Pas tout de suite, et ça c'est ma deuxième découverte, c'est qu'on ne devient pas stérile immédiatement une fois que l'opération est faite.
Ah, il faut pas partir à l'assaut tout de suite après l'opération.
Voilà, il faut attendre.
J'utilise une image, elle vaut ce qu'elle vaut.
90 jours avant de devenir vraiment stérile, et là c'est le docteur Christian Castagnola, urologue, qui va nous expliquer pourquoi.
Les spermatozoïdes vont mettre 90 jours pour aller du testicule jusqu'à la prostate. Ils sont assez feignants, mais c'est parce qu'en fait, dans cette migration, ils continuent leur maturation. Donc lorsque vous coupez le canal déférent, il y a des spermatozoïdes qui vont être en chemin et il faut éliminer ces spermatozoïdes.
J'aime beaucoup, ils sont en chemin.
Ils sont en chemin et ils sont feignants aussi.
Oui. Et donc il faut attendre 20 éjaculations avant effectivement de devenir réellement stérile.
Ah, il faut se dépêcher alors.
20 éjaculations, c'est-à-dire 48 heures à peu près. C'est beaucoup, hein. Enfin bon, ok.
Tous n'auront pas la patience.
On fera un effort.
Ouais. Est-ce que c'est irréversible cette opération?
Alors, on a beaucoup longtemps cru que non, mais non, il existe une opération qui permet de faire le chemin en arrière, qui s'appelle... Non, mais c'est pas vrai, vous connaissez ça,
bien
Gérard
sûr,
Darmon.
Bien sûr,
vous m'avez l'air très renseigné, Gérard Darmon.
Non, c'est pas ça, c'est parce que l'année dernière, j'ai joué une pièce qui s'appelait L'ordre des choses, et c'était le sujet, on parlait aussi de ça.
Ah oui, donc effectivement, cette opération existe, et donc j'avais bien noté, parce que ça me semblait compliqué. Redites-le.
Vasectomie, un truc comme ça.
Mais ça marche pas à tous les coups. Alors, la plupart des hommes, on leur propose de congeler leur sperme et avant l'opération pour, au cas où, ils aient un petit revenez-y.
Merci beaucoup, Ève Roger, pour ce sujet qui tombait justement à pic avec l'ancienne pièce de Gérard Darmon. Hein, vous ne le saviez pas, mais parfois, vous tapez juste. C'est la musique des Molières. Vous l'avez reconnu. Combien de Molières, Pierre?
Alors, combien de Molières? 1.
Combien de Césars ?
Comme meilleur acteur dans un second rôle. Moi qui ai passé ma vie, à jouer au théâtre, j'ai été nommé un certain nombre de fois, mais tout le monde pense que j'en ai eu 25 et je n'ai jamais eu le Molière du meilleur acteur, mais je ne le mérite sans doute pas. Oh. Donc, ça m'est complètement égal. C'est pas grave, ça m'a fait plaisir quand j'ai eu le premier Molière d'histoire des Molières, puisque le Molière du meilleur acteur dans un second rôle était le premier Molière remis à l'époque, en 1986 ou 7, je crois. Combien de César ? 2. Un comme meilleur acteur dans un second rôle et un comme meilleur acteur tout court.
Ah, meilleur acteur tout court. Voilà. Vous êtes donc sur scène dans Compromis au Théâtre des Nouveautés avec Michel Leeb.
Stéphane Pézerra. Pour en parler quand même, parce qu'il est formidable dans le spectacle. Ouais. Hein. Oui. Alors, il est moins connu, c'est normal. C'est normal qu'il soit moins connu que nous, c'est très bien, mais enfin, on peut en parler un petit peu quand même.
J'ai pas envie d'être trop flagorneur avec vous, Pierre, d'autant que vous passez votre temps à nous tacler, mais c'est vrai que vous êtes quand même un acteur assez phénoménal dans le sens où vous êtes toujours bon, vous êtes toujours excellent dans n'importe quelle pièce, en fait, quel que soit le texte, vous êtes incroyable. Si, Pierre. Ouais. Pas de fausse modestie. Est-ce que vous avez toujours le trac après 50 ans de carrière au moment d'entrer en scène ? Ou est-ce que vous savez que.
C'est pas pareil. Quand j'étais très jeune et que je commençais, je tenais pas sur mes cannes. Et je me disais, mais tout le monde va le voir, ça faisait ça. Mais je me tremblais comme ça. Je me disais, mais ça va être épouvantable. On va me balancer les tomates pour que je sorte de scène immédiatement. Tout le monde doit voir que je tremble. Personne ne le voyait, évidemment. Il n'y a que moi qui n'y a pas. Donc j'avais peur que les gens, dès que j'étais rentré en scène, me sifflent. Parce qu'ils vont vous dire, qu'est-ce que fait ce connard là, il faut qu'il sorte. Bon, 55 ans plus tard, car c'est exactement ça, 55 ans, honnêtement, pas de fausse modestie, les gens viennent aussi pour me voir. Ah, oui, peut-être parfois même, c'est sûr. D'abord. Et donc, je ne peux pas dire, oh, bon, écoutez, non, j'ai peur qu'on me cite. Non, voilà. Donc maintenant, c'est autre chose. Maintenant, j'ai peur, moi, de ne pas être au niveau de ce que les gens ont pu rêver de voir. Il y a une très belle phrase de Michel Bouquet qui dit, n'oubliez jamais que le public ne vient pas pour vous voir jouer, il vient pour jouer avec vous. Mmh. Eh bien, voilà. J'espère arriver à jouer avec eux. Enfin, apparemment. Hein.
Ah, ça a bien marché dimanche, on a bien joué avec vous. Ça a l'air.
Et je crois que vous aussi, vous avez envie de jouer avec Pierre Arditi. Elle a le trac et pour cause, surtout sur le thème de la musique. Elle a, disons, certaines lacunes qu'elle tente de cacher habilement en bluffant, comme hier, face aux explications pointues de notre expert lyrique Laure d'Autriche. Elle a fait croire qu'elle avait compris. Écoutez.
Vous avez eu l'impression d'entendre un bémol parce qu'en fait c'est la gamme de Do, mais je l'ai commencé à la note sol pour pas que ce soit trop long. Ça donne le sentiment d'avoir un bémol, mais en fait c'est la gamme de Do.
Ah, d'accord.
Ouais, genre, t'as compris. Pierre Arditi, pour évoquer Compromis, cette pièce de théâtre qui se déroule sur fond de tractation immobilière, nous avons conçu un quiz musical immobilier. Principe simple, je vous fais écouter des chansons sur le thème des maisons, mais une personne va sonner. À vous de trouver la parole qui a disparu derrière la sonnette. Un mot trouvé, c'est vicieux, hein ? Un mot trouvé,
c'est
un
pas
point.
Vicieux, c'est impraticable.
Allez, vous allez voir. Pierre Arditi, on commence avec La Maison Bleue de Maxime Le Forestier.
Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester.
Peuplée de fous, elle sera la dernière à rester
debout.
Bravo, Pierre Arditi.
Elle sera dernière à rester debout.
J'adore cette chanson. Non, moi, l'Alzheimer est en pleine forme. C'est la catastrophe pour moi, un truc comme ça. Hein.
Enfin, vous avez quand même marqué un point. Bon. Eva Rock, je vous invite dans la maison de Claude François.
Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton.
Ah, tiens, ils berceront ton quoi ? On écoute
Ton
Eva.
Cœur ?
Ton cœur, on écoute
oui,
la réponse en musique.
Ils berceront ton cœur.
Voilà. Voilà.
Moi, je suis forcément battu sur un truc comme ça, parce que c'est un vrai problème. Ces trucs que j'ai entendus tout au long de mon
adolescence. Mais comment c'est possible que vous devez avoir une mémoire incroyable ?
Parce que, par exemple, Compromis, on l'a arrêté pendant 4 mois. Donc, je n'ai pas ouvert le thème. Je me suis dit, pas de problème.
Mais
8 jours avant Noël, je commence à regarder. Je ne savais plus rien. Donc,
vous
voilà.
Avez une mémoire à court terme extrêmement efficace ?
Non, c'est dans le disque dur. C'est-à-dire que j'ai mis 24 heures pour reprendre le cirque. Donc là... Vous me faites écouter des trucs que je n'ai pas entendus depuis 25 ans. Et par conséquent, évidemment, je n'ai aucune chance de m'en sortir.
Bah, vous avez un point déjà, Pierre.
Attention, c'est pour l'instant, c'est bien le seul. À égalité. Pierre Arditi, on part dans la maison hantée d'Eddie Mitchell.
Quand minuit sonne dans la maison hantée, un vieux piano se met à jouer pour de jolis fantômes féminins qui font d'étranges signes de la...
Oui, ça c'est facile.
De la main. Vous dites, il y a peut-être un piège, écoutons.
Font d'étranges signes de la main.
Ah non, sacré Eddie. Eva Rock, c'était pas la plus dure hein, pour Pierre. Là. Je sens qu'il y a une coalition contre Eva Rock. Eva Rock, un moment romantique et humide avec Herbert Léonard, Mon cœur et ma maison.
Je t'ouvrirai mon cœur et ma maison. Tout ce que j'ai, nous le.
J'ai même pas écouté en fait. Je t'ouvrirai ma maison
respect,
et mon cœur.
Un peu de respect pour Herbert.
Non, mais pardon, oui. Je t'ouvrirai mon cœur et ma maison là. Et puis quoi après?
Tout ce que j'ai, nous le.
Partagerons.
Oui.
Ah, le point, elle vient de vous voler un point. Écoutons la réponse.
Tout ce que j'ai, nous le partagerons.
Ah, bah, je partage mon point avec.
Vous ne partagez rien du tout, vous n'avez rien dit. Le point est à Pierre Arditi. Dernière question qui vous départagera. Eva, Pierre Arditi, on ne va pas dans une maison, mais dans le HLM de Renault.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est.
Je sais plus. Je sais.
Moi, je sais pas.
Mais vous jouez pas non plus, vous.
Vous jouez pas.
Je ne joue pas. Jean-Philippe Ballas.
Bronzé.
Surtout si c'est bronzé.
Ballas. Mais vous ne jouez pas. Qui remporte le quiz? C'est évidemment Pierre Arditi, notre invité.
Et
oui, c'est toujours l'invité qui gagne. Un ami proche me demandait récemment, avec ce tact que seuls les amis proches peuvent avoir, « Mais Mathieu, ton émission, là, c'est possible de l'écouter avec des enfants ?» J'ai dit oui, toutes, sauf les jours où il y a Ève Roger dans l'équipe. Et a fortiori, les jours où, comme avant-hier, il y a Ève Roger et André Manoukian en même temps. Là, mettez plutôt les enfants devant un bol de Chocapic. Pour ceux qui étaient présents malgré tout, je présente mes excuses. Et à la question « Comment on en est arrivé avec cette question ?»
André aura le même argent, mais son sperme sera vendu plus cher.
Mais non.
Vous avez un très bon sperme, il est vendu plus cher qu'un sperme un peu moins mobile.
Mais comment vous savez ?
Je n'ai aucune réponse et je me décharge de toute responsabilité si j'ose la formule. Pardon. Donc là, clairement, choc à pic pour tout le monde, car Ève Roger arrive. Mais avec un sujet sérieux aujourd'hui, Ève.
Mes sujets sont sérieux.
Oui, c'est vrai. Certains plus que d'autres quand même. Vous nous parlez de la période la plus dangereuse pour les jeunes couples.
Alors, je commence avec deux chiffres. 100% des couples connaissent des turbulences au moment de l'arrivée du premier enfant. Ça, c'est une évidence. Mais 20% des couples divorcent 4 à 5 ans après le mariage. Donc, c'est un couple sur 5. Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous raconter l'histoire de Sylvain et Clarence. C'est des jeunes trentenaires. Ils sont chefs d'entreprise tous les deux. Elle veut un enfant, mais lui, il ne veut pas parce qu'il mène une vie comme il l'entend. Beaucoup de sorties, beaucoup d'amis, beaucoup de vacances. Alors pour le convaincre, elle lui propose de signer un contrat avant même de concevoir l'enfant, qui lui garantira le fait continuer à mener la vie qu'il aime. Alors ils se mettent autour d'une table.
Ça peut pas marcher cette histoire.
Écoutez, mais vous allez voir, c'est spectaculaire. Ils rédigent un pacte dont ils ont fait un livre qui s'appelle Le pacte des futurs parents. Tout y passe, l'allaitement, la place des beaux-parents, le mode de garde. Moi j'ai choisi les trois moments les plus épineux de ce couple quand un bébé arrive. Et on commence, vous l'avez déjà dit, les nuits. Alors quand le bébé pleure, qui doit se lever? Moi j'avais une amie qui disait toutes les nuits tu divorces, tous les matins tu te remaries. Sauf que tu ne sais pas. Alors Sylvain et Clarence, ils ont choisi une formule assez banale qui est chacun son tour, mais ils racontent l'histoire de deux copains qui ont choisi un système qui est machiavélique. C'est tiré au sort celui qui se lève à l'aide d'une sorte de roue de la fortune, ou plutôt de l'infortune. À chaque fois que le bébé pleure, ils font tourner la roue. Écoutez Sylvain.
Ah, c'est un vrai truc qu'il avait construit lui-même en bois. C'était magique. Sauf que ce qui est drôle, c'est que celui qui se levait plus en voulait comme à celui qui avait eu de la chance le lendemain. Du coup, pour le deuxième, ils se levaient tous les deux en disant « Quitte à ce qu'il y en a un qui fasse rien, au moins on sera tous les deux fatigués, donc on ne pourra pas en vouloir à l'autre. »
Je sais pas ce qui est le pire, se lever tous les deux, ça me semble aussi complètement fou. Quoi. Alors ensuite, vous l'avez dit aussi, deuxième moment le plus épineux, c'est la vie sexuelle. Alors toujours autour d'une table, Sylvain et Clarence, eh ben, ils ont discuté, vous allez l'entendre, ils n'ont rien laissé au hasard.
Pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout n'est pas si simple, ça ne se passe pas toujours comme on l'imagine. Il n'y a pas que la pénétration, il y a plein d'autres choses à imaginer. Mais c'est surtout la reprise après. Et du coup, dans notre pacte, on a parlé d'un minimum hygiénique.
Alors, le minimum hygiénique. Il a fallu que j'arrache à Sylvain ce que c'est que ce minimum hygiénique. J'ai réussi. C'est une fois tous les 8 jours. Le problème, c'est comment on fait appliquer le pacte.
On ne vient pas avec le pacte dans la chambre en disant « Eh oh, ça fait 8 jours, on avait dit que c'est minimum 8 jours ». Non, on fait un peu l'effort d'avoir moins mal à la tête, d'être moins fatigué. C'est les 30 premières secondes qu'on n'a pas envie de faire l'effort. Parce qu'au final, c'est toujours génial de faire l'amour.
Ah bah oui, c'est quand même une bonne conclusion. Puis enfin, un dernier point pour sauver le jeune couple du désastre, c'est passer du temps à deux, vous savez, sans bébé. Et là, j'ai découvert la méthode 2-2-2. Un soir toutes les 2 semaines, un week-end tous les 2 mois, une semaine de vacances tous les 2 ans. Donc vous en souvenez? Alors après, évidemment, ça peut s'adapter, mais c'est quand même une base qu'il faut avoir.
Mais
passer
c'est vous
du
qui
temps.
L'avez inventé, là.
Non, c'est une méthode qui existe. Bref, pour passer au mieux cette période difficile, je vais terminer avec une citation de Jacques Chirac, puisqu'on est obligé, qui cite lui-même sa grand-mère. Alors écoutez bien, parce que moi j'adore cette citation. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Les hauts, on les méprise. Les bas, on les reprise.
Wow. Bravo, M. Roger. Mais néanmoins, vous n'y couperez pas. Voici la question vache de l'autre chroniqueur, Emmanuel Duteil. Depuis le temps que vous rêvez de faire tomber Eve de son piédestal, c'est le moment. Lâchez-vous.
Il ne faut pas que je sois trop méchant, parce que je suis obligé de reconnaître que sa chronique était passionnante. Donc
non, comment, vous commencez mal.
Mais ils sont toujours en couple, Sylvain et Clarence ?
Sylvain et Clarence, ils sont en couple. Ils ont une petite fille qui s'appelle Loni qui a 18 mois. Et là, ils vont faire une V2 du pacte pour... C'est ce qu'ils vont expliquer.
Mais c'est pas grand du tout. Hein.
Ah non, ils sont.
Ça vous plaît ?
Ouais, c'est vraiment une bonne idée, parce que la plupart des gens partent à la bataille sans. À la
base.
Et après, au fur et à mesure que les problèmes apparaissent, ils disent. Ah ben zut, on n'avait pas vu voir. Ouais, on n'a pas vu venir.
Imaginez que la relation amoureuse est rationnelle, alors que logiquement, c'est tout l'inverse de la
rationalité. Oui, mais c'est vrai que finalement,
c'est totalement triste. Ça enlève
c'est,
tout.
C'est triste, je suis partagé sur le sujet. C'est vrai qu'en même temps, ça peut être ingénieux parce qu'on désamorce à l'avance.
On ne pourra pas régler les problèmes en les ayant prévus à l'avance.
Non, tu ne peux pas régler les problèmes au jour le jour quand c'est la panique. Quand tu ne dors plus la nuit, quand tu es fatigué, tout ça, c'est plus possible.
Bah oui. Donc Bernard Werber, je sens que Bernard Werber a bien aimé cette chronique.
Bah moi aussi, je le reconnais.
Je me rappelle une fois, j'avais amené mon enfant chez le pédiatre. Et le pédiatre, il me dit, vous avez le courage de faire des enfants parce que je sais que dans 2 ans, vous serez séparés. et il m'a regardé parce que lui-même venait de se séparer. Et il m'a dit, de toute façon, tous mes clients, je le sais, ils font le gosse, ils se séparent après. Oh, c'est la règle, c'est la nouvelle règle.
Mais vous lui avez donné tort.
Non.
Dans la rédac, on l'appelle Mister Fauderche. Sa stratégie, la flagornerie. Flatter l'invité pour engranger des points. Mardi, soit Gérard Ramon était vraiment hilarant, soit Jean-Philippe en a un peu trop fait. Il a un peu forcé son rire, histoire de finir premier.
Je veux bien l'autre café. Avec un Ricard dedans.
Jean-Philippe Fauderche, on vous écoute.
Défendez-vous, Jean-Philippe.
On va tout de suite se mettre dans l'ambiance, les amis.
Ah oui,
écoutez.
Changement d'ambiance.
Écoutez bien et attention, c'est pas du cinéma. Alors vous entendez cette voix, ces détonations, vous êtes sur le pont d'un navire américain au large des côtes normandes, au-dessus de votre tête c'est l'aviation allemande et nous sommes le 6 juin 1944. Cet enregistrement sonore, c'est bien celui du D-Day et vous vivez l'événement en temps réel. C'est un reportage de 13 minutes qui est signé George Hicks, c'est un journaliste de 38 ans à l'époque et en fermant les yeux vous allez comprendre l'expression « un déluge de feu ». Voilà, c'est absolument ininterrompu. Alors d'où vient cette bande ? Eh bien, elle a été retrouvée totalement par hasard dans une petite bicoque du côté de Long Island, c'était dans les années 90. Dans un coin comme ça, il y avait une caisse avec des vestiges de la guerre, dont ces enregistrements. Le problème, c'est que la machine qui avait servi à réaliser le reportage, eh bien, cette machine n'existe plus aujourd'hui. Ah. Il était impossible de lire les bandes. Alors finalement, au bout de plusieurs années, le propriétaire de la maison va finir par trouver un technicien qui va finir par trouver le moyen d'écouter le reportage. Et après vérification des historiens, on a la certitude aujourd'hui qu'il s'agit bien d'un trésor, les originaux du journaliste George Hicks. Lui, il est mort en 65. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le propriétaire a décidé de remettre cet enregistrement au mémorial du D-Day, c'est en Virginie, je l'ai lu ce matin dans le Washington Post. Et les spécialistes qui ont écouté la totalité de la bande, ces spécialistes vous disent que c'est absolument saisissant, c'est effrayant. On entend le souffle court du reporter, on entend le bruit, la fureur. Alors, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'images, notamment dernièrement avec le 75e anniversaire, beaucoup d'images du D-Day en noir et blanc. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, ils se disent « bah, c'était il y a longtemps, c'est loin tout ça ». Je vous garantis que quand on se concentre uniquement sur le son, vous vivez vraiment l'événement direct. Vous êtes sur le bateau hein, avec le journaliste et on se dit que finalement, attention, c'était pas il y a si longtemps.
Mais attends, il était sur le bateau, donc il a pris des risques de dingue. Enfin, c'est un miracle qu'il soit.
Ils étaient nombreux. Hein,
c'est ce qu'on appelle littéralement le reportage de guerre. C'était les premiers vrais reporters de guerre à cette époque.
Il n'y en avait pas beaucoup, je crois, ce jour-là, en plus.
Il y en a quelques-uns, quand même, célèbres. Il y a Capa.
Il y a Capa, qui a pris cette fameuse photo. Mais c'est vrai qu'ils étaient très peu nombreux. Et qu'on a peu retrouvé d'originaux, finalement, de cette époque.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Ballas. Vous connaissez la règle, elle peut tomber à n'importe quel moment. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Nicolas Caron, oserez-vous une question vache sur un sujet aussi sérieux ?
Déjà, je l'ai lu dans le Washington Post ce matin. Calmez-vous un peu, Jean-Philippe.
Pardon, mais j'ai rencontré Bret Easton Ellis, ça se pose là aussi. Hein. Voilà.
Bon, deux frimeurs.
Vous nous avez parlé du D-Day, mais quelle est l'heure H du débarquement ?
Ah, il est collé. Il est collé, le Ballas. Le Anderson Cooper de Malakoff.
En plus, je l'ai su il y a quelques mois.
Ah oui, vous l'avez su. Moi aussi, quand j'étais en terminale, je l'ai su. Mais là, je l'ai oublié.
Minuit 50, parachutiste.
Merci.
1h-10. Voilà. Ouais. Oui, j'étais dans le ventre de ma mère depuis 4 mois. Oh. Oui,
ah oui,
vous bah, êtes... oui. Je suis né le 1er décembre 1944. Donc le 6 juin 1944, j'étais dans le ventre de ma mère depuis 4 mois. C'est effrayant. Ça fout la trouille. Ça fout la pétoche. On se dit, putain, pourvu que je ne finisse pas comme ça. Quand je vous regarde, c'est effrayant. Ça fait peur.
C'est notre Gérard préféré. Nous sommes ravis de le recevoir. Eva ?
T'as fait rêver Gérard Larcher, non ?
Gérard Darmon, Gérard Darmon est avec nous. Gérard, vous êtes à l'affiche de Vous êtes jeune, vous êtes beau. On a envie de Gérard Larcher aussi, mais bon, ça, on ouais, va certainement moins se marrer.
J'ai failli rip et dites donc.
Pas sûr, c'est vrai, on ne sait pas.
À son insu, peut-être.
C'est vrai aussi. Ouais. Vous êtes jeune, vous êtes beau, c'est le premier film de Franz Hindon. Mais récemment, on vous a également découvert sur Netflix en patriarche, prêt à investir dans le cannabis. Family Business, c'est le titre de cette série complètement déjantée avec Jonathan Cohen notamment et Enrico Macias. Alors rien que pour ça, bon, il faut le regarder. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer la saison 2 pour tous les fans ?
Confirme. Je confirme la saison 2.
Alors est-ce que cette série, vous l'avez acceptée parce que vous trouviez que le scénario était drôle ou est-ce qu'il y a un message aussi ? Vous êtes pour la dépénalisation du cannabis ?
Bon, non, mais les deux, ça c'est pas.
C'est même pas un enjeu.
Oui, non, mais c'est pas pour être dans une espèce de d'humeur et dans le mood. C'est bien la dépénalisation. Ça fait 40 ans que je le dis. C'est très très bien. Ça va comment dirais-je, résoudre beaucoup de problèmes, la dépénalisation. Peut-être que ça en créera 2-3 autres, mais ça sera toujours mieux.
Enrico Macias sera de la saison 2.
Ça, c'est vraiment
mais vraiment, parce que j'ai tellement aimé votre duo dans la saison 1.
Oui, probablement, j'espère, ouais. J'espère. Il y a Julia Piaton aussi. Hein,
elle est extraordinaire, Julia
magnifique,
Piaton.
Ouais. Il y a d'autres acteurs qui sont sublimes.
Est-ce que vous, Gérard, vous êtes vous-même un gros consommateur de séries?
C'était la vraie question. Ça.
J'ai barré cannabis au dernier moment pour rester tout public, mais vous m'avez lu parfaitement.
Oui. Je consomme pas mal de séries. Ouais.
Il est à l'affiche du film Vous êtes jeune, vous êtes beau, l'histoire d'un septuagénaire dans la Dèche qui va accepter de participer à des combats clandestins de seigneurs. Il va recroiser un vieil ami, Aldo, joué par Patrick Bouchité. Aldo qui vous embarque dans une soirée à un moment du film très sexe, drogue et rock'n'roll à laquelle vous n'adhérez pas vraiment. Ça, c'est pour le cinéma, mais votre vie à vous, Gérard, elle a été à un moment quand même très sexe, drogue et rock'n'roll pour ceux qui ont lu votre livre.
Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais c'était peut-être le moment où il fallait que ça arrive. Oui, bah absolument. Ouais.
Mais vous dites, j'ai connu 3 années de dope intensive, puis 40 autres de dope ordinaire, presque culturel. Ça me plaisait, je fumais de l'herbe. Qu'en dire que j'appartiens à une génération où il suffisait de se baisser pour en trouver.
C'est vrai, même de les cultiver. quand je dis ça, bien sûr, que c'est quand je dis c'est culturel, bien sûr, parce que l'Afrique du Nord, moi je suis né ici en France, à Paris, mais toute l'Afrique du Nord, toute l'Afrique d'ailleurs, tout le Moyen-Orient, toute l'Amérique du Sud, il n'y a qu'en Europe où il y a eu une espèce d'interdit comme ça, de morale très judéo-chrétien sur l'herbe, etc. Bon, voilà, bon, ça a l'air de revenir maintenant, de changer un peu de cap, mais oui, bien sûr, oui. Mais c'était très bien, c'était un voyage pas si simple que ça, c'était pas, on fumait pas, en tout cas moi je fumais pas comme ça pour être béat, et il y avait un vrai combat, ça me mettait parfois dans des états très, très compliqués, mais c'était, j'avançais quoi, on descend dans les égouts et c'est bien.
Et vous avez complètement arrêté aujourd'hui ?
Oui, depuis 7-8 ans j'ai arrêté de fumer, 7 ans.
Il est à l'affiche du film Vous êtes jeune, vous êtes beau, un film envoûtant, je ne vois pas d'autres mots. C'est un premier film, hein. Vous êtes stressé pour le réalisateur, parce que vous, j'imagine que vous êtes assez détendu, mais...
Je ne suis pas stressé pour le réalisateur, je pense qu'il est en train de préparer un autre film, et puis qu'il fera son chemin, il fera sa vie. Non, ben bon, mais c'est toujours un peu stressant d'avoir un film qui sort, surtout un film comme ça, qui ne fait pas partie de la meute. Donc voilà, mais sinon, moi je suis très heureux.
Parmi vos projets, on évoquait tout à l'heure la saison 2 de Family Business sur Netflix. Côté cinéma, 2 autres projets. Le prochain film de Cairon, Brutus contre César, avec Thierry Lhermitte et Pierre Richard.
C'est tourné déjà.
Ça, c'est tourné. Mais... Vous y incarnez un sénateur un peu tordu. Ça donne quoi, Gérard Darmon, un sénateur un peu tordu ?
Ben, le sénateur tordu, c'est Cassius. Décidément, j'étais dans l'Igus cette année. Lucius, Cassius, Nunius, Sucius, peut-être bientôt. Allez savoir. Voilà, oui, donc il complote pour évidemment tuer César. Je fais pair, si j'ose dire, après ce sujet, avec Lhermitte. Et puis avant, il y a eu le tournage de Bouchou avec Carole Bouquet.
Et ça, ça sort quand, Bouchou? On
ne sait
pas.
Je ne sais pas, peut-être en avril aussi.
Il faudra rappeler Mathieu Charrier, peut-être le 7e.
Voilà, peut-être, voilà.
Vous portez également depuis plusieurs années un projet de film un peu fou, un peu barré, qui fait peur aux producteurs, dites-vous, ça s'appelle oui. Fernandel, c'est moi.
Oui,
vous êtes un fou de Fernandel.
Oui, j'aime beaucoup Fernandel, et puis je le ressens bien, et j'ai écrit une histoire un peu folle là-dessus, et qui plaît beaucoup, mais qui fait peur. Donc, je ne sais pas si un jour je le ferai, j'ai tellement envie de le faire, c'est très compliqué.
C'est compliqué à monter.
Oui, c'est très compliqué à monter.
Ah ben, quand on est Gérard Darmon, c'est compliqué de monter un
oui,
film.
Oui, oui, surtout quand on est Gérard Darmon.
Mais la modestie l'étouffe.
Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas de la fausse modestie. C'est de la...
Jacques Chirac nous a quitté la semaine dernière. On en parlait sur le humoristique tout à l'heure. Très bon enchaînement, vous avez vu. Sans transition, c'est quelqu'un que vous avez l'occasion de croiser, je crois.
Ah oui, plus que croiser. Oui, on s'est vu souvent parce que j'étais très ami avec Claude et puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il était et maire de Paris et premier ministre et président d'ailleurs.
Et ça dit pas mal de choses de lui. Vous nous disiez qu'il a été pour vous une porte d'accès vers certaines stars que vous aduliez, comme Frank Sinatra, par exemple. C'est grâce à lui que vous avez pu le rencontrer.
Ah oui, il m'a fait toucher du doigt mon rêve. C'est-à-dire de rencontrer Sinatra, de parler avec lui, de boire un coup avec lui, de fumer une clope parce que je fumais à ce moment-là, de boire un Jack parce que c'était sa boisson, de dîner, de manger des pâtes. Et je regardais, je le dis toujours, mais c'est vrai, je regardais comment... Je me disais, est-ce que lui, il a son plat de spaghettis comme le mien? C'est-à-dire qu'il va y en avoir une plus longue. Et est-ce qu'il la coupe directement ou est-ce qu'il la gloute comme ça? Et voilà, donc c'était parfait. Mais oui, voilà, donc ce sont des moments formidables, inoubliables. Il m'a présenté à lui, il m'a pris sous son bras. Il était vraiment très formidable. Et puis, d'une façon plus intime, il est plus privé, j'en parle jamais, mais il a été, lorsque ma mère était très malade et elle était sur le point de partir, il a été d'un support affectif magnifique.
Mais c'est extrêmement intéressant, je trouve, parce qu'il y a eu, sur tous les gens qui commentaient sans connaître Jacques Chirac, il y a eu pas mal de certains qui émettaient des doutes sur le fait, parce qu'il était tellement sympathique et tellement humain, que certains émettaient la possibilité que ça soit une forme de machiavélisme, qu'il soit finalement pas si humain comme
mais
ça, qu'il le faisait politiquement.
Mais
est-ce que vous nous dites...
Sinon, il n'y a pas les images qu'on a vues hier. Il y a le peuple, quand t'es comme ça, les gens ne se trompent pas à ce point-là. Ils peuvent se tromper sur beaucoup de choses. Hein, je pense
on peut tromper mille fois.
Mille fois, voilà, exactement.